Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Il est 8h49 ce matin, les grands débats avec Arlège Chabot. Vos appels 0826-300-300 sur ce remaniement au gouvernement. Les nouveaux ministres, les départs, on les connaît. Les arrivées, pour l'instant, bah, les noms arrivent. À quoi faut-il s'attendre? On en parle avec vous ce matin.
Rebonjour Arlette Chabot.
Rebonjour.
Les rumeurs vont bon train, alors parlez-nous de ces rumeurs, parce qu'il y a quand même des noms qui sont parfois peut-être un peu surprenants.
Alors je ne sais pas qui jugez-vous comme nomination surprenante. Ce qui est à peu près sûr, c'est que Olivier Véran va quitter les relations avec le Parlement et va être porte-parole du gouvernement à la place d'Olivia Grégoire qui retourne à Bercy, à ministre délégué avec un poste important parce qu'elle aura le commerce, l'artisanat, les PME et le tourisme qui était jusque-là un poste non pourvu. Je n'ai pas les titres et la définition, ministre délégué sans doute. Voilà pour le porte-parole. Et Franck Riester, qui appartient au mouvement Horizon d'Édouard Philippe, deviendrait ministre en charge des relations avec le Parlement. C'est important, c'est significatif. On sait qu'Olivier Véran vient de la gauche. Il n'est pas le mieux placé pour discuter, surtout avec la droite, alors que Franck Riester vient des Républicains. Ça peut faciliter peut-être les conversations avec des Républicains.
Avec des noms qui reviennent, comme Marlène Schiappa, par exemple.
Voilà, qui serait nommée, on ne sait pas très bien quel poste, mais peut-être en charge, on ne sait pas, d'économie solidaire, quelque chose comme ça, directement branché sur la première ministre. On sait aussi que Clément Beaune ne serait plus en charge des affaires européennes, mais serait ministre des Transports. Qui, pour les affaires européennes, pour l'instant, on ne sait pas. Il y aura quelques entrées d'élus de terrain, sans doute, et de droite et de gauche. Et puis, ça, c'est une quasi-certitude, le choix de François Braun, qui était, vous savez, président de SAMU Urgences, qui a fait ce rapport flash pour sauver l'hôpital et les urgences pendant l'été, remis la semaine dernière à Elisabeth Borne, et bien deviendrait ministre de la Santé. Voilà, en gros, après, il y a d'autres noms, évidemment, qui peuvent
circuler. Oui, vous parliez des élus, par exemple, Olivier Klein, qui est le maire de Clichy-sous-Bois.
Voilà, on parle aussi de Caroline Cailleux, qui est la maire de Beauvais. Alors, l'un est de la gauche, l'autre de la droite. Il n'y a pas, pour l'instant, de ralliement spectaculaire. Il n'y a pas de nom, il n'y aura pas d'effet waouh, comme on dit, pas du tout. Et puis, il n'y aurait pas des personnalités de premier plan chez les LR. On voit bien que Caroline Cailleux, elle est élue de terrain. Donc il y a un choix aussi pour avoir des gens qui connaissent les sujets concrets du quotidien.
Mais la nomination, par exemple, de François Braun, professeur en médecine, qui a fait la mission Flash, c'est pas un peu une surprise, sachant que toutes les professions médicales ont dit que cette mission Flash, c'était un rapport, 41 propositions et 60 pages, pour rien ou pas grand-chose.
Je pense que de toute façon, ça ne va pas tout régler, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il y avait une logique. On a vu François Braun, qui était conseiller santé d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, chargé par le président de la République, réélu, de faire cette mission flash. Il fait des propositions, on l'a vu à côté de la Première ministre et de Madame Bourguignon, ministre éphémère, ministre de la Santé des missionnaires, la semaine dernière. Ça a au moins, effectivement, ça donne l'image d'une certaine continuité, en tout cas d'un travail qui n'a pas été fait pour rien, puisque les mesures ont été acceptées. Après, dire que les soignants sont contents et vont se satisfaire de ce plan, évidemment non, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais c'est un homme de terrain qui connaît les sujets, qui a été choisi. On parlait évidemment de Philippe Juvin, qui lui aussi, mais c'est un député LR, donc ça peut poser un problème vis-à-vis des LR, débauchage évidemment, alors qu'il est plutôt, pour l'instant, il y a plutôt le souci de les amadouer.
Mais on parlait de prise de guerre, justement, dans les camps, chez les écologistes ou chez les LR, finalement, rien de tout cela.
Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'écolo. Il y a effectivement des modems. On parle de Jean-Noël Barrot qui pourrait rentrer côté modem dans le gouvernement, parce qu'il y a un souci, visiblement, du président de la République de sécuriser les alliés. C'est le modem et Horizon. Faire plaisir à Édouard Philippe et faire plaisir aussi à François Bayrou, c'est normal. C'est bétonner la majorité ajustée de façon à, on le sent bien, parler évidemment à la droite et aux Républicains, sans négliger la gauche, mais il n'y aura pas de débauchage spectaculaire, pas de vert. Si effectivement Christophe Béchu devient remplace Amélie de Montchalin pour la transition écologique, avec quel périmètre, on ne sait pas bien, et c'est pas un vert, c'est un Républicain évidemment d'origine, avant de rejoindre Édouard Philippe. Donc il n'y a rien de spectaculaire, ce sont des élus, donc des gens de terrain, et on bétonne la majorité.
Avec un Gérald Darmanin conforté, et même
disent qu'il aura un ministère
puissant.
Élargi, en plus, et pourrait récupérer les Outre-mer. Tout ça est à dire avec des précautions, évidemment. Il y a 2-3 éléments dont on est à peu près sûr. Après, on attend la fiche de poste, ministre, ministre délégué, secrétaire d'État. Tout ça est à prendre encore avec, évidemment, un peu de prudence tant qu'on n'a pas la liste donnée officiellement par l'Élysée.
Cécile avait parlé à juste titre des débauchages éventuels chez les Verts qui ne viennent pas.
Non.
Pas non plus au Parti Socialiste, alors que le premier gouvernement du deuxième quinquennat Macron a plus penché à droite avec le départ d'anciens socialistes comme Florence Parly ou Jean-Yves Le Drian, Arlette Chabot.
Oui, mais enfin, si effectivement il y a un élu terrain comme Olivier Klein qui est maire de PS de Clichy qui rejoint, mais on voit bien qu'il n'y a pas de débauchage spectaculaire, qui auraient été des personnalités de premier plan qui auraient abandonné leur poste de député notamment, bah pour l'instant, non. Il y a quand même, il y a des vocations toujours pour entrer au gouvernement, mais quand vous êtes député sous la menace, guillemets, d'une dissolution dans les 6 mois ou dans l'année qui vient, franchement, rallier le gouvernement, c'est prendre un risque que certains n'ont sans doute pas voulu prendre.
Eh bien, restez avec nous, on revient dans quelques instants. Les grands débats, ça continue, vos appels 0826-300-300, vous voulez commenter, bien entendu, c'est les nominations, en tout cas, de ces gouvernements, pour l'instant, en tout cas, de ces futurs ministres. Pour l'instant, l'affaire est à suivre, bien entendu, rien n'est confirmé. 0826-300-300, on revient dans un instant. Merci.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et dans un instant, on parlera, bien entendu, Tour de France en attendant. C'est Éric Revel.
Bonjour Éric Revel.
Bonjour Éric.
Bonjour Philippe. Bonjour Cécile, bonjour Arlette, bonjour à tous.
La dette publique gonfle, la remontée des taux devient un vrai problème.
Ben oui, la dette publique en France est supérieure à 2900 milliards d'euros. Vous avez peut-être vu d'ailleurs, hein, Philippe, ce papier dans le Canard enchaîné qui explique qu'on aurait planqué sous le tapis.
Oui.
Enfin, merci. 100 milliards d'euros de dette supplémentaire par des tours de passe-passe budgétaire. Bon, on verra.
Le tapis va être épais avec 2900... 100 milliards.
Hein. Milliards d'euros de dette. Il y a deux composantes à cette dette. Il y a le stock, hein, et puis il y a les agios sur la dette. Parce que la France, avec cette dette colossale, est à découvert. Hein. Si vous dépensez plus que vous gagnez, ben vous êtes à découvert quand vous êtes un ménage. Ben l'État, c'est pareil. Hein. Et ben les agios de la dette, écoutez bien, hein, c'est-à-dire ce que l'État doit verser chaque année parce que l'État est à découvert, ça représente 38 à 40 milliards d'euros. C'est-à-dire la moitié de ce que rapporte l'intégralité de l'impôt sur le revenu. 38 à 40 milliards d'euros sur l'agio de la dette, Philippe, c'est tout l'impôt sur les sociétés en France. Vous voyez, c'est colossal. Et puis, mauvaise nouvelle, bah, ces agios vont s'alourdir d'au moins 17 milliards cette année, calculent les experts, parce que, un, le taux d'inflation en Europe est très élevé. Or, une partie de la dette française est gagée sur le taux d'inflation en Europe. Et puis, deux, bah, parce que les taux d'intérêt remontent.
Alors justement, la dette accumulée, ce sont des agios à payer, mais aussi des difficultés à investir pour l'État.
Ben oui, parce qu'on parle de nouveau gouvernement, bon, très bien, mais l'État n'a plus l'argent, hein. Les caisses sont vides. Alors au-delà de la question financière, il y a la question d'investissement public. Comment investir dans l'hôpital, la justice, l'éducation nationale, quand notre dette publique est aussi lourde? Pourtant, bah, on l'entend bien, hein, évidemment, on le voit tous les jours, l'hôpital, la justice, l'éducation, voire l'armée ont besoin d'investissements publics. Alors, nouveau gouvernement, aujourd'hui, Arlette Chabot en parlait il y a quelques instants, oui, mais ça sert à quoi un nouveau gouvernement avec des nouveaux ministres s'ils n'ont pas de moyens? Donc on a un gros problème. Hein. Bruno Le Maire qui va sans doute rester à Bercy, enfin en tout cas c'est ce qu'il a dit. Je vous rappelle sa petite phrase, hein. Nos finances publiques ont atteint une cote d'alerte. Alors vous vous souvenez sans doute, hein, je le répète, c'était évidemment en écho aux lointaines déclarations de François Fillon qui lui, à l'époque de Nicolas Sarkozy, avait dit « Je suis à la tête, Philippe, d'un État en quasi-faillite ».
Alors justement, est-ce que d'autres pays en Europe sont en difficulté, Eric?
Oh oui, c'est des grands classiques. Hein. En Europe, il y a ce qu'on appelle les pays frugaux. vous savez, les rigoureux budgétairement. Hein. Alors, ils sont plutôt au nord, les pays frugaux. Hein. C'est la Suède, les Pays-Bas, l'Allemagne, bien sûr. Et puis, il y a les pays budgétairement, historiquement, et encore plus, là, en ce moment, en grande difficulté. Bon, vous vous souvenez que la Grèce avait failli faire faillite. Bah, aujourd'hui, les pays les plus en difficulté, c'est l'Espagne, l'Italie, le Portugal, et donc, évidemment, la France. Alors, vous savez peut-être, Philippe, comment les experts budgétaires appellent ces pays du sud de l'Europe qui ne respectent pas ou qui respectent peu les équilibres budgétaires, vous savez ou pas ?
Oui, allez-y. Vous connaissez mieux que moi.
Les pays du Club Med.
Absolument.
Les pays du Club Med. Ben oui. Pendant les vacances, la dette continue de travailler. Donc bon lundi à tous.
Le Club Med, d'ailleurs, s'inspire peut-être certains de nos auditeurs qui vont y partir cet été.
Absolument. Merci beaucoup, Eric. On vous retrouve dans quelques instants. Et juste après vous, on reviendra sur le remaniement au gouvernement, les entrées, les sorties. On reparlera bien sûr de Damien Abad, visé par cette enquête pour tentative de viol. Et puis le député Eric Coquerel, aussi visé par un signalement auprès du comité de suivi des violences sexuelles de la France insoumise. Mais en attendant, on parle Tour de France.
Béarn Pyrénées Tourisme et Gîte de France 64 présentent.
Sud Radio fait son Tour de France. Vincent Barthaud.
Bonjour. Et Vincent Barthaud est avec nous, ancien cycliste professionnel. Bonjour Vincent.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, mon cher Vincent, vous voulez nous parler de ces 350 km hier, Copenhague, magnifique.
Oui, ben voilà. Trois petits coups de pédale et puis s'en va au revoir Copenhague, hein, avec ses effectivement 350 km de piste cyclable. Son magnifique pont Belt, 17 km de long, hein, un pont dimension godzillesque. Mmh. Et puis je voulais surtout aussi vous parler de ce phénomène, Wout van Aert, ce coureur de la Jumbo Visma de nationalité belge, trois fois deuxième sur les trois premières étapes à Copenhague. Il a enfin réalisé son rêve de gosse. Porter le maillot jaune, cette tunique d'or que tous les coureurs envient, ça c'est magnifique.
Ça c'est magnifique, surtout qu'il ne l'avait jamais porté alors que le maillot vert, il le connaît bien. Hein.
Oui, il a été maillot vert effectivement sur les Tours de France qu'il a pu participer au tout début de sa carrière, mais vous savez, le maillot jaune, et j'en suis conscient, je sais ce que ça vaut, tous les coureurs envient vraiment de porter cette tunique d'or. Et en finissant trois fois deuxième sur les premières étapes, ça a été une déception pour lui, mais heureusement qu'il a pu arracher ce maillot jaune et le mérite. Je crois que c'est un coureur qui est complet. C'est une chose extraordinaire pour lui, c'est un rêve de gosse. Donc il expliquait à toute la presse que porter le maillot jaune, c'était une fin en soi en fait. C'est ce qu'il faut avoir pendant le Tour de France.
Merci beaucoup. Vincent Barthaud. On vous retrouve demain bien sûr.
Salut, merci à vous.
Salut, à demain. Restez avec nous dans quelques instants. Le remaniement au gouvernement, les entrées, les sorties. Le député Éric Coquerel, visé par un signalement auprès du comité de suivi des violences sexistes et sexuelles de la France insoumise. On en parle dans un instant avec nos éditorialistes du jour, Arlette Chabot et Éric Revel. Et vos appels 0826-300-300. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Il est 9h12, la suite des grands débats ce matin. Nos éditorialistes du jour, Arlette Chabot, Éric Revel et vos appels 0826-300-300. On a fait un petit récapitulatif des entrées potentielles au gouvernement avec Arlette Chabot il y a quelques instants. Et il y a aussi des sorties, Philippe.
Il y a aussi des sorties, vous allez nous récapituler ça, ma chère
Arlette.
Il faut
que je fasse tout, c'est incroyable.
Absolument.
Alors, je pense que ce que tout le monde retiendra aujourd'hui, c'est sans doute la nomination. Il faut toujours avoir une petite prudence, tant que ce n'est pas officiel, même si tout le monde le sait. Quand même. Alors, François Braun, qui est président des SAMU Urgences de France, deviendrait ministre de la Santé. On sait que c'est à lui que le président de la République avait demandé ce fameux rapport flash sur le SAMU, les urgences, comment l'hôpital va-t-il passer l'été. Ben, voilà, il devient ministre de la Santé. On sait aussi qu'Olivier Véran ne sera plus ministre en charge des relations avec le Parlement, mais plutôt porte-parole du gouvernement, à la place d'Olivia Grégoire, qui retourne à Bercy avec un gros poste important. Mm-hmm. Artisanat, PME, commerce, tourisme. Ça fait beaucoup de monde et qui font beaucoup pression sur les ministres, généralement.
Oui.
Évidemment, Gérald Darmanin reste. Évidemment, c'est pareil pour Bruno Le Maire. Ça ne changera pas, évidemment, ni à la Défense, ni au Quai d'Orsay. Ça, on le savait.
Franck Riester pourrait changer.
Voilà,
aussi.
Franck Riester, j'ai oublié, remplace effectivement Olivier Véran aux relations avec le Parlement. C'est un poste évidemment stratégique dans la situation actuelle. C'est un homme qui vient des Républicains, c'est un parlementaire aguerri. Donc sans doute avec lui, eh bien, le pouvoir espère que les relations seront assez fluides, notamment avec les Républicains.
Et des élus aussi.
Il y a des élus, des nouveaux élus. Alors de terrain, on pense à Caroline Cayeux venant de la droite, maire de Beauvais. Alors, elle était déjà ralliée à Emmanuel Macron. Hein. Ce n'est pas un débauchage spectaculaire. De même pour Olivier Klein, qui est maire socialiste de Clichy et qui prendrait en charge le logement. Un changement aussi, parce qu'on le connaît, on a appris à le connaître, Clément Beaune, en charge des affaires européennes, qui prendrait en charge les transports. C'est important à un moment où il y a des grèves qui commencent un peu partout. Voilà. Et Christophe Béchu, proche aussi d'Édouard Philippe, qui devrait reprendre le poste de, important, hein, la transition écologique, à la place d'Amélie de Montchalin, qui a été aussi battue aux législatives.
Et Marlène Schiappa, dont on n'entendait plus parler,
ah bah voilà,
c'est le retour.
Elle ne veut parler que de Marlène Schiappa, qui revient au gouvernement, voilà, entre la télé et le gouvernement. D'ailleurs, peut-être va-t-elle continuer les deux, faire la télé et gouvernement, un ministère dont on ne connaît pas précisément le périmètre et le titre, ministre délégué ou secrétaire d'État.
On va faire réagir Éric Revel sur les supputations que...
Peut-être les sorties aussi, ce qui est important.
Alors,
c'est la sortie
le
de...
plus important, ouais, c'est effectivement la sortie de Damien Abad. On savait qu'il y avait un bras de fer entre la Première ministre, Elisabeth Borne, et le président de la République. Le président n'aime pas, évidemment, que des ministres partent. Parce qu'ils sont sous pression, parce qu'il y a une plainte. Bon, on a bien vu ce qui s'était passé avec Gérald Darmanin ou bien le ministre de la Justice. Bien, finalement, elle, en revanche, souhaitait, Elisabeth Borne, qu'il s'en aille, il s'en va.
On va faire réagir Éric Revel avant de passer au sujet suivant. Bon, Éric Revel, Arlette Chabot nous a dit en off qu'elle n'avait pas été sollicitée pour entrer au gouvernement. Même chose pour Cécile de Ménibus. Êtes-vous sollicité, vous, Éric Revel, et sinon, bah, donnez-nous votre réaction.
Oui, je vais plutôt vous donner ma réaction. Bon, j'écoute avec beaucoup de prudence ce que dit évidemment Arlette Chabot. Moi, j'avais cru comprendre dans les couloirs les Républicains qu'il y avait deux lignes rouges à ne pas franchir pour les Républicains si le gouvernement voulait, d'une façon ou d'une autre, pouvoir travailler avec les Républicains à l'Assemblée nationale. Ben, je constate, hein, d'après ce que dit Arlette Chabot, que ces deux lignes rouges n'ont pas été franchies, comme par hasard.
Exact.
Les Républicains auraient demandé la sortie d'Abad du gouvernement, non pas parce qu'il est présumé coupable ou innocent, mais parce que c'est l'ancien patron du groupe LR à l'Assemblée nationale, et que pour les Républicains, évidemment, il a trahi, le chef a trahi. Et puis deux, c'était la non-entrée de M. Juvin, vous vous souvenez, M. Juvin, qu'on disait peut-être ministrable à la Santé, bah, visiblement, il ne serait pas non plus ministre de la Santé. Donc ces deux lignes rouges n'ayant pas été franchies, peut-être qu'on verra se décider dans les semaines qui viennent une collaboration plus importante entre le gouvernement de Mme Borne et les Républicains, alors sur des majorités de circonstances ou autre chose. En tout cas, je note que ces deux lignes rouges qu'on m'avait répétées à l'envi du côté de la rue Vaugirard, où il y a le siège des Républicains, mais n'ont pas été franchies comme par hasard. Et puis, pour Mme Schiappa, juste un mot, bon, qu'elle soit à l'intérieur du gouvernement ou à l'extérieur, ça fait quand même assez longtemps qu'elle fait de la télé-réalité politique, oui.
Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des surprises avec les secrétaires d'État, Arlette Chabot ?
Bah, non, moi je crois pas. Je suis tout à fait d'accord avec Éric. Hein. On a compris là comment on câline un peu, ou en tout cas on ne veut pas se fâcher davantage avec les Républicains, puisqu'il n'y a pas d'accord pour l'instant, de possibilité d'accord du gouvernement.
Et c'était ministre ou rien dans l'absolu.
Oui, puis c'était des débauchages encore, donc ça aurait fâché tout le monde. Donc il y a un souci, c'est ne nous fâchons pas avec les Républicains d'entrée de jeu. Après, des surprises, non, il n'y a pas de personnalité chez les écologistes qui est cédé aux sirènes d'Emmanuel Macron, écouter ses messages d'amitié et d'encouragement. Non, il n'y aura pas de surprise, il n'y a pas de choc. C'est un gouvernement avec des gens de terrain compétents ou des élus de terrain qui sont aussi ou qui doivent être compétents. Après, comme on dit, on répète depuis deux mois, c'est action, comme on dit au cinéma. La caméra, on tourne, ça commence.
Moteur. Alors justement, Damien Abad ne sera pas au gouvernement et on va venir sur notre deuxième débat.
Oui, le député Éric Coquerel, hein, qui est visé par un signalement auprès du comité de suivi des violences sexistes et sexuelles de la France insoumise, avec une pré-plainte qui a été déposée par Sophie Tessier.
Alors justement, est-ce que c'est la fin de la présomption d'innocence ? Est-ce qu'une dénonciation je ne juge rien sur l'affaire Coquerel ou l'affaire Abad, hein, soit dit en passant. Est-ce qu'une dénonciation sur les réseaux sociaux qui fait le buzz, Arlette Chabot, ça vous vaut une mise au pilori politique ?
Non, ce n'est pas possible. Il faut sortir de système. C'est les rumeurs, car tant qu'il n'y a pas de témoignage ou de dépôt de plainte, là, en l'occurrence, avec Éric Coquerel, il y a quelqu'un qui a changé d'avis deux fois en 24 heures. Donc c'est quand même un problème. En disant, il y a eu des comportements inappropriés, mais pas d'agression, donc je n'ai pas porté plainte. Et puis, quelques heures plus tard, on change d'avis et on dit, effectivement, bah, quand même, je vais porter une pré-plainte, déposer une pré-plainte. C'est quand même assez étonnant. Donc je pense qu'il faut sortir de la rumeur. Il y a plainte ou il n'y a pas plainte. Il faut écouter les femmes. C'est toujours douloureux de dire « j'ai été agressée ». Évidemment, on les écoute, mais en revanche, il faut les encourager. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Elisabeth Borne en ce qui concerne Damien Abad. Encourager les victimes à vraiment porter plainte. Mais sur les réseaux sociaux, vous imaginez, ça ne peut pas être dénonciation pour tout. Il n'y a pas que les agressions sexuelles. C'est insupportable. C'est... Franchement, vous savez, il y avait des petites boîtes à Venise, on voit, il y avait des petites boîtes au palais ducal dans lesquelles on pouvait glisser des dénonciations. C'est ça, en gros, le réseau social, les réseaux sociaux en gigantesque. C'est insupportable, mais pour tout le monde, pour les politiques, pour les vedettes, pour tous les gens qui sont un peu connus, et demain, ce sera votre voisin, vous dénoncerez sur les réseaux sociaux. Ça, c'est insupportable.
Éric Revel, vous êtes d'accord avec Arlette Chabot ?
Non, mais on est rentré dans une ère de folie. Maintenant, il y a des pré-plaintes, il y a des pré-rumeurs. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Alors, quand même, il y a derrière toute cette affaire, évidemment, un sujet de crédibilité politique. Parce que la France insoumise, doit sa crédibilité politique bien des domaines. À ces dénonciations qu'un certain nombre de leaders de la France insoumise ont mises en avant quand il y avait des agressions sexuelles ou des gestes inconsidérés. Donc évidemment, imaginez que celui qui vient d'être nommé président de la commission des finances, qui est un insoumis, puisse être rattrapé par là, c'est évidemment, ce serait au conditionnel, évidemment, un véritable tremblement de terre. Donc j'imagine les pressions de part et d'autre qui doivent s'exercer, aussi bien en direction de cette ancienne gilet jaune qui serait sur le point ou qui aurait déposé une pré-plainte, et puis en direction aussi d'Éric Coquerel, parce que ce serait un tremblement de terre pour la France insoumise si le député devait renoncer à la présidence de la commission des finances. Mais rendez-vous bien compte où nous en sommes arrivés. On en est arrivé à parler de pré-plainte. On en est arrivé à parler de pré-rumeurs. On est loin de toute information. On fait le procès, effectivement, sur les réseaux sociaux avant même que le début d'une plainte, d'une preuve, de quoi que ce soit ait été avancé. Donc on est en train de basculer dans une sorte de dictature, de la tyrannie des réseaux sociaux. Mais évidemment aussi, il y a une sorte d'arroseur arrosé dans cette affaire. Parce que des gens qui sont proches de la France insoumise, je pense à Madame Rousseau, qui avait tiré à boulet rouge sur Monsieur Abad, alors qu'on n'avait même pas à l'époque de plainte qui lui demandait de démissionner, où elle était visionnaire, ou alors elle devrait appliquer aux siens ce qu'elle voulait appliquer à ses ennemis politiques. Oui. Donc tout ça pour vous dire qu'on a basculé dans une ère de folie absolue, de pré-rumeurs en pré-plainte, avec une classe politique qui est en train de s'auto-agonir elle-même, de s'auto-détruire elle-même, devant les yeux ébahis de ceux qui ont voté pour des nouveaux députés à l'Assemblée nationale, des nouveaux députés qui portent beaucoup d'espoir.
Et il n'y avait pas, d'ailleurs, je donne la parole à Arlette Chabot, il n'y avait pas que sur Damien Abad que Sandrine Rousseau s'était lâchée, elle s'était lâchée sur la secrétaire d'État à la francophonie, l'accusant de viol gynécologique, si je ne m'abuse.
Absolument. Oui, juste un mot, 100% d'accord avec ce que dit Éric, il y a juste une toute petite précision. C'est pas un règlement de compte qui vient ou des accusations qui viennent de la majorité des ennemis politiques de la France insoumise,
mais qui viennent de
notamment,
son camp.
Oui. Mais qui viennent de son camp. La personne qui a, il y a des rumeurs qui circulent, mais la personne qui publiquement a posé le problème concernant Coquerel, c'est Rokhaya Diallo, qui est quand même éloigné. Donc, je pense que c'est important de le préciser pour ceux qui nous écoutent.
Et Sophie Tessier aussi. Hein.
Et voilà, oui. Ce sont des à l'intérieur du parti. C'est Sandrine Rousseau mettant en cause un des responsables à l'époque, Denis Baupin, chez les Verts. Là, c'est la même chose. Ça sent le règlement de compte intérieur et interne. Pourquoi ? Il y a des explications, on en parlera peut-être un jour.
Alors, justement, Éric Revel, vous voulez réagir, je crois, à ce que vient de dire Arlette Chabot.
Oui. Non, quand je parlais d'ennemis politiques, je voulais dire que ce soit l'opposition, la majorité relative ou la majorité absolue, tout le monde est en train de se cogner dessus. Mais vous avez raison, Arlette, de rappeler, s'il y avait une ambiguïté dans mon propos, l'affaire, entre guillemets, Coquerel est venue de son propre camp. D'ailleurs, ce qui est absolument incroyable, parce qu'en politique, il n'y a jamais de hasard dans le timing, évidemment. Le timing explique souvent pourquoi une affaire ou une polémique se déclenche. Ben moi, j'aimerais bien savoir pourquoi Mme Roca Diallo a déclenché ou a redéclenché ou a réalimenté cette polémique contre M. Coquerel une fois qu'il était élu, désigné à la présidence de la Commission des Finances. Bon, donc, évidemment, il n'y a pas de hasard dans le timing.
Le calendrier.
La réponse dans la question que je viens de formuler. Ah, donc c'est oui, c'est un règlement de compte politique interne à la France insoumise ou à la NUPES, c'est d'une évidence. Parce que n'oubliez pas que celle qui apparaissait peut-être la plus compatible, c'était Madame Valérie Rabault, la socialiste, qui était pressentie pour adhérer à cette présidence. Et comme par hasard, elle est, alors qu'elle faisait presque l'unanimité, y compris dans le camp d'en face. Enfin, les Français en ont soupé de tout ça quand même.
C'est ça, puisque aujourd'hui, les vrais sujets, encore une fois, cette polémique chasse les vrais sujets de ce qu'on attend sur le terrain.
Notamment, Cécile, je le disais dans mon édito, avec la dette qui est la nôtre aujourd'hui, c'est bien d'avoir un nouveau gouvernement avec des nouveaux titulaires de portefeuille. Mais est-ce que vous croyez qu'à la santé, le président du SAMU qui remplacerait Mme Bourguignon aura davantage d'argent pour embaucher des soignants ou pour rénover les structures hospitalières? Ben pas du tout. On ne peut pas avoir plus d'argent puisqu'on n'a plus d'argent. Donc en réalité, on amuse quand même les gens avec ce nouveau gouvernement qui a un peu tardé, mais les moyens financiers sont toujours aussi réduits. Et sur le fond, ça changera quoi dans le quotidien des Français, dans le quotidien des patients à l'hôpital, dans le quotidien des justiciables devant les tribunaux, dans le quotidien des militaires français qui sont sur des théâtres d'opérations extérieures? Ben, ça ne changera rien parce qu'il n'y aura pas davantage de budget.
Mais Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'après le vote des députés à l'Assemblée nationale, que l'union des gauches pourrait perdurer. Ça y est, c'est fini. Arlette Chabot.
Pour l'instant, ça tient facilement. On va voir. Dès que les projets de loi vont arriver, on verra qui vote quoi, qui s'abstient et qui vote contre. C'est vraiment... Ça sera vraiment intéressant de voir. Pour l'instant, il n'y a pas des gros sujets qui fâchent. Lorsqu'on arrivera à l'énergie, au nucléaire, par exemple, on sait bien... Ces désaccords sont actés, reprendront leur identité et leur position initiale. Mais là, dans le quotidien, pour l'instant, ça tient. Ça tient parce que c'est une alliance électorale qui a permis à certains de retrouver un groupe parlementaire, c'est le cas des écologistes, de sauver son groupe, c'est le cas des communistes. Et après, il y aura les insoumis et les autres, et on verra comment ça se passe.
Éric Revel, comme on dit de manière un peu triviale, ça tient parce que c'est la mode ?
Ça tient parce que le succès politique autour de l'union de la gauche que Jean-Luc Mélenchon a fait en 15 jours, là, François Mitterrand avait mis 4 ans, ça tient pour ça. Maintenant, on voit bien que depuis le début, par exemple, Fabien Roussel, pour le Parti communiste, fait entendre une petite musique, mais totalement différente.
Oui.
Mais depuis le début, il se rappelle au bon souvenir de Jean-Luc Mélenchon en permanence. Donc on voit bien qu'il y a les socialistes qui sont en train, le PS qui est en train, je ne sais pas si vous avez vu, mais enfin c'est
Olivier
absolument
Faure,
hallucinant. Ils sont en train de prendre des procédures pour exclure quand même un ancien chef de l'État, François Hollande, un ancien Premier ministre, Cazeneuve. Ils sont en train d'abattre les éléphants du PS les uns derrière les autres pour se retrouver portion congrue. Donc peut-être que le PS finira par fusionner avec les filles, j'en sais rien. Mais oui, cette NUPES ne peut pas tenir extrêmement longtemps... à l'Assemblée nationale. Finalement, ceux qu'on entend les moins, qui semblent les plus groupés, c'est le Rassemblement national quand même. Eux, bon an, mal an, ils ont une chef derrière lesquelles ils sont tous alignés. C'est un constat, pas un jugement de valeur. Donc, qu'est-ce qui va rester de cette Assemblée nationale? Quels seront les rapports de force, à la rentrée en septembre, si vous avez une rentrée sociale chaude? Comment le PC, les socialistes, la France insoumise, les Verts vont-ils réagir face à des mouvements dans la rue? Personne n'en sait rien. Donc là, je pense que les Français vont partir en vacances. avec évidemment beaucoup de difficultés à remplir le réservoir de leur voiture, hein, parce que les prix de l'essence ont explosé. Et puis on verra à la rentrée ce qui se passera et on verra comment réagira, Arlette a raison, l'Assemblée nationale.
Merci. Ça nous promet des débats passionnants sur Sud Radio, ma chère Cécile.
Absolument, merci beaucoup Arlette Chabot, merci beaucoup Eric Revel. Restez avec nous, ça continue le Grand Matin jusqu'à 10h. Dans un instant, c'est le 4 juillet aujourd'hui, donc c'est la journée nationale, la fête nationale aux États-Unis. Et on verra si les États-Unis sont encore le phare du monde libre. On en parlera avec deux spécialistes. Restez avec nous, il est 9h28, c'est le Grand Matin Sud Radio.